Hello, bienvenue dans Boost à recherche d'emploi podcast. Je suis Vanessa Choubia, ingénieure chimiste de formation. Je travaille actuellement dans l'industrie cosmétique. Je suis également entrepreneuse sociale. Boost à recherche d'emploi est un rendez-vous mensuel pour discuter en toute simplicité des stratégies de recherche d'emploi. À chaque épisode, les invités en toute humilité nous feront découvrir leur métier et les moyens qu'ils ont utilisés pour intégrer le milieu professionnel. Il ne s'agit pas ici de portraits de super-héros ou de modèles à suivre, mais j'espère qu'à travers leur parcours inspirant, vous y trouverez une bonne dose de motivation, ainsi que plein d'astuces pour mener à bien votre recherche de job, tout en ayant une bonne confiance en vous. Je vous invite à vous installer confortablement et vous souhaite une belle écoute. Prenez soin de vous. Je reçois aujourd'hui Marc Gassa-Happy, pharmacienne de formation, et diplômée de la prestigieuse école de commerce HEC. Marc travaille actuellement comme chef de produit chez Mayolis Spindler, un laboratoire pharmaceutique français. Bonjour Marc.
Bonjour Vanessa.
Comment ça va en cette période confinée?
Ça va bien, ça va très bien. On s'occupe comme on peut, hein, moi, entre le télétravail et mon fils. C'est un petit peu comme ça que j'occupe mes journées.
C'est cool de savoir que ta famille et toi, elle est bien. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast pour parler d'outils en matière de recherche d'emploi ainsi que de ton métier de chef de produit dans l'industrie pharmaceutique. Je te propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet en décrivant ton parcours académique et professionnel.
Alors moi je suis pharmacienne de formation. J'ai fait mes études à Tours et je suis arrivée principalement dans ce domaine parce que ma mère et pharmacienne, et donc j'ai toujours baigné finalement dans ce milieu. Et au cours de mes études de pharmacie, je me suis rendu compte que la pharmacie, c'était plusieurs domaines différents. Ça va de la recherche à l'industrie, aux pharmaciens d'officine que tout le monde connaît. Et finalement, donc durant mes études de pharmacie, j'ai décidé d'ouvrir mes chakras et de finalement trouver quelle était la formation qui me convenait et quel était le métier que j'avais envie d'exercer. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers le marketing et que je suis aujourd'hui chef de produit dans l'industrie pharmaceutique.
J'adore l'expression « ouvrir ses chakras ». C'est tellement fort de sens. C'est très clair. Tu mentionnes que tu as toujours été attirée par le métier de pharmacien. Mais concrètement, qu'est-ce qui te plaît dans cette profession ?
Ce qui me plaît dans cette profession, c'est surtout la proximité avec les gens et le soin que l'on peut apporter, puisque c'est un métier, c'est un professionnel de santé, le pharmacien. Et c'est toujours le professionnel de santé qui va apporter l'écoute, qu'on va pouvoir venir voir sans rendez-vous et qui va pouvoir prendre soin des gens de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus proche. Et donc vraiment, c'est ce qui m'a attirée, cette proximité avec, avec les personnes et le soin qu'on peut prodiguer au quotidien, les conseils qu'on peut apporter au quotidien.
C'est donc un métier de contact, un métier où il faut aimer prodiguer des conseils et en même temps un métier très, très axé en fait sur le soin. Tu nous expliques également que plusieurs débouchés sont possibles après des études de pharmacie. Donc, je cite l'industrie, l'officine, la biologie. Comment accède-t-on à ces spécialités ? Par exemple, je suis une étudiante en pharmacie qui voudrait se spécialiser en biologie. Comment devrais-je m'y prendre ?
Alors, pour se spécialiser en biologie, c'est un parcours un petit peu différent. Parce que on rentre dans les études de pharmacie par un concours, mais au cours des études de pharmacie, si on veut aller vers de la recherche ou de la biologie, on aura un second concours à passer pendant ces études pour accéder à ces métiers-là. Autrement, toutes les autres spécialités telles que l'industrie ou l'officine, il suffit juste d'avoir certaines notes et de choisir la spécialisation que l'on veut. Et pendant les études, on aura le cursus approprié.
Donc en fait, c'est soit sur base de notes obtenues pendant tout le cursus, soit sur base de concours. Et pourquoi avoir choisi le marketing ?
J'ai choisi le marketing parce que finalement c'est le domaine où on peut le plus s'exprimer. La pharmacie, c'est quand même un domaine très normé avec beaucoup de protocoles, de choses comme ça à tous les niveaux finalement de la pharmacie. Et le marketing, c'est celui où on peut exprimer le plus de créativité. Où on peut réellement apporter quelque part sa propre patte. Et donc, je me suis intéressée finalement aux formations qui existaient pour pouvoir aller là-dedans. Et finalement, moi, j'avais envie de faire une grande école parce que je pense que dans tout ce qu'on doit faire dans notre vie, c'est toujours bien de viser haut pour avoir la chance d'atteindre au mieux le rêve que l'on s'est fixé. Donc, j'ai postulé dans des grandes écoles et j'ai réussi à être prise de HEC, où j'ai fait donc un an de master spécialisé pour pouvoir travailler dans le marketing.
D'ailleurs, bravo pour ton intégration à HEC, c'est vraiment super. Comment on s'y prépare en fait ? Comment se prépare-t-on à intégrer une école aussi prestigieuse qu'HEC ?
Alors, je pense que encore une fois, il faut avoir de l'ambition. C'est la première chose pour pouvoir se préparer, parce que il faut pas avoir peur de viser haut et de se dire c'est HEC, donc c'est inaccessible. Rien n'est inaccessible si on se donne les moyens d'y arriver. Donc, la première qualité, je dirais, c'est d'avoir de l'ambition. Maintenant, dans la préparation, c'est important, bien évidemment, de bien travailler son CV, parce que c'est la première image quelque part qu'on verra de soi. Donc le CV, c'est extrêmement important. Ensuite, il faut bien travailler également les entretiens, parce que si notre dossier est sélectionné, on aura à passer un entretien, on aura finalement à se vendre. Donc c'est important de travailler aussi la manière dont on se présente, la manière dont on vend son parcours et sa motivation surtout. Et donc pour intégrer HEC, il y avait tout un dossier à préparer avec notamment le TOEIC, qui est un examen d'anglais qu'il faut passer pour intégrer plusieurs grandes écoles, plusieurs écoles d'ailleurs de commerce. Et donc le TOEIC, ça permet de montrer un petit peu son niveau d'anglais. Ensuite, il y a toute la partie de lettre de motivation pour vraiment montrer qu'on a envie d'intégrer l'école et expliquer ses raisons. Et la partie entretien qui est extrêmement importante à préparer pour pouvoir convaincre d'être pris dans l'école.
Avant de revenir au sujet du CV, l'entretien, du TOEIC, la lettre de motivation, j'aimerais juste avoir ton avis sur un point. Parce que tout à l'heure, tu as dit « j'ai toujours voulu faire une grande école ». Je voulais juste partager en fait mon sentiment là-dessus, c'est que faire une grande école, c'est vraiment un plus, mais ça ne fait pas tout. Ce qui compte le plus, c'est vraiment sa personnalité, sa capacité à définir clairement son projet et les moyens qu'on met derrière pour y arriver. Je voudrais savoir ce que tu penses en fait vis-à-vis de cela.
C'est totalement ma vision des choses. Je pense que faire une grande école, c'est extrêmement positif sur un CV. Quand on arrive en tant que jeune diplômé, le fait de voir HEC sur son CV, ça t'ouvre des portes. Ça ouvre des portes assez rapidement et assez facilement. Donc ça, c'est un très gros avantage d'avoir une grande école sur son CV. Maintenant, bien évidemment que ça ne fait pas tout. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait une grande école qu'on va correspondre à ce que la personne en face recherche pour dans le métier ou dans le poste qu'il propose. La personnalité, c'est extrêmement important. La motivation, c'est extrêmement important également. Et en effet, avoir une vision et un projet professionnel, c'est encore mieux parce que ça permet vraiment aux recruteurs en face de se projeter, je dirais, avec soi.
Tout à fait. Donc, en fait, si j'ai juste un mot à rajouter, c'est vraiment ne soyez pas limité par le fait de penser qu'une grande école, c'est vraiment indispensable, même si en France, on a beaucoup la culture des grandes écoles. Mais comme Marthe vient de le dire à juste titre, en fait, il y a vraiment plein d'autres atouts. Hein. Enfin, vous, en fait, vraiment, ce que vous proposez, les moyens que vous mettez en place, qui sont vraiment beaucoup plus importants aussi que simplement le nom d'une école. J'aimerais qu'on revienne en fait au CV. T'as dit que t'avais travaillé ton CV, t'avais bossé sur tes entretiens pour savoir t'exprimer, te vendre, que t'as préparé le TOEIC, pareil pour tes lettres de motivation. As-tu été accompagnée sur ces différents points ou en fait c'est toi-même qui as fait tes recherches? Comment ça s'est passé?
Moi, j'ai beaucoup recherché sur Internet quand même pour travailler mon CV, mes lettres de motivation, comment est-ce qu'on fait exactement. Je pense que de toute façon, il faut avoir une base quelque part. Après, courant de mes études, j'ai également été formée là-dessus, hein, avec HEC par exemple. Pendant ces études, on travaille aussi cette partie CV, etc. Et puis après, j'ai également échangé avec les personnes autour de moi, mes amis, les personnes qui sont déjà passées par là avant moi. Je pense que c'est aussi bien de pouvoir prendre les conseils des aînés quelque part pour pouvoir peaufiner tout ce qui est CV, tout ce qui est motivation.
Donc j'entends vraiment déjà de la recherche personnelle, du réseau aussi, ne pas hésiter d'échanger avec les amis, voir comment ils font, comment les aînés ont procédé, et également des formations, hein, des formations qui peuvent exister soit à l'école, soit en dehors. Donc vraiment ne pas hésiter à vraiment se renseigner pour être sûr que tous nos atouts qui sont le CV, la façon dont on se présente en entretien, des atouts linguistiques qui sont mesurés à travers certains examens, voilà, qu'on soit vraiment au top pour pouvoir intégrer, que ce soit des écoles ou même dans le cadre de la recherche d'un travail. À présent, je te propose de vraiment rentrer dans la vie professionnelle, hein, dans ta vie après HEC. Comment tu t'y es prise pour trouver ton premier emploi? Est-ce que ça a été difficile ou au contraire, ça a été facile? Et combien de temps ça t'a pris?
Alors, est-ce que ça a été difficile? Je n'irai pas jusque-là. Je pense que j'ai relativement eu des entretiens facilement. Maintenant, il faut se dire que moi, dans ma recherche, j'étais quand même assez déterminée et aussi assez précise dans ce que je faisais, c'est-à-dire que j'avais un dossier dans mon ordinateur où par entreprise, j'avais vraiment noté toutes les lettres, tous les CV que j'ai envoyés, tout est classé par entreprise, etc. Parce que je mets aussi un point d'honneur à toujours légèrement personnaliser mes CV et mes lettres de motivation pour pouvoir vraiment coller aux besoins actuels du poste et de l'entreprise qui est proposée. Donc, j'ai toujours un petit peu modifié tous mes CV, toutes mes lettres de motivation et tout classé par dossier. Je pense que j'en ai envoyé une cinquantaine au tout début de ma jeune carrière. Et voilà, j'ai toujours été très focus, envoyé les CV et puis lorsque j'avais des entretiens, bah, les préparer au mieux, se renseigner sur l'entreprise, sur le poste proposé. Et encore une fois, il faut savoir se vendre, il faut savoir vendre sa personnalité et ce qu'on peut apporter à l'entreprise.
Très bien. Et quand tu dis il faut savoir se vendre, concrètement, si tu as en deux mots, comment on fait ? J'entends qu'il y a de la préparation, j'entends que c'est beaucoup d'organisation, mais si tu as juste un petit truc à rajouter concernant la façon de se vendre, tu dirais quoi ?
Je pense qu'on peut se vendre déjà en montrant à l'autre qu'on correspond en fait à son poste et à ses attentes. Donc c'est important pour intégrer une entreprise déjà de la connaître. C'est important de poser les bonnes questions. C'est important de pouvoir de savoir rebondir quelque part sur les questions ou les échanges que l'on aura en entretien. Parce que ça montre que on a de l'écoute, ça montre qu'on a un esprit de synthèse, ça montre que on s'est préparé, ça montre énormément de qualités en fait qui te permettent finalement déjà de te vendre sans avoir même à dire des choses sur soi. Après, il y a des questions aussi qui sont classiques, c'est qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui ferait la différence entre vous et un autre candidat, pourquoi est-ce qu'on vous prendrait vous et pas un autre. Pourquoi est-ce que vous correspondriez au poste qu'on propose, etc. Il y a des questions comme ça qui reviennent assez souvent et qu'il est important de préparer et de pouvoir y répondre de manière fluide pour pouvoir convaincre en fait le recruteur en face de soi.
Je surligne surtout poser les bonnes questions, savoir rebondir. C'est super important ce que tu dis là. Et pour moi, en fait, vraiment être à l'aise dans cet exercice de poser les bonnes questions, de savoir rebondir, ça passe vraiment par la connaissance déjà de l'entreprise hein, pour laquelle on postule, d'où tu parlais, de vraiment personnaliser que ce soit son CV et sa lettre de motivation en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de nous, et aussi de la connaissance de soi, de la connaissance par cœur en fait de son projet. Alors, j'aimerais à présent qu'on parle de la suite hein, de ton parcours professionnel, donc stage de fin d'études chez Sanofi. Ensuite, tu as travaillé pour d'autres entreprises, il me semble, avant d'arriver chez ton entreprise actuelle qui est Mayolis Spindler. Pourquoi en fait avoir quitté l'entreprise où tu étais avant?
Alors oui, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises. Donc Sanofi à la fin de mes études. Ensuite, je suis partie au laboratoire de la mer pendant 18 mois à Saint-Malo. Donc ça a été une expérience hyper riche parce que quelque part, je me suis mise en danger quelque part d'aller dans une ville que je ne connaissais pas. D'aller dans un travail que finalement je ne connaissais pas avant d'y être, et ça a été extrêmement enrichissant. Je n'ai à aucun moment regretté d'être partie à Saint-Malo parce que non seulement le travail était vraiment intéressant, j'ai eu l'occasion de voyager, d'aller dans de nombreux pays grâce à ce travail, et j'ai énormément appris et énormément grandi. Donc, je pense que quand on est jeune diplômé, il ne faut pas aussi hésiter à être mobile, à pouvoir partir là où les opportunités se trouvent, parce que on va toujours en sortir de toute façon grandi, et que quand on est jeune diplômé, en général, on n'a pas encore trop de charges ou trop de personnes dont il faut s'occuper à part soi-même. Donc ceci étant dit, je suis partie 18 mois, mais j'ai choisi de revenir en région parisienne par la suite parce que l'éloignement finalement de mes amis et de ma famille était aussi assez important. Mais vraiment, ça a été une expérience très enrichissante. Et ensuite, je suis revenue sur un CDD chez Sanofi encore pendant 9 mois. Et ensuite, je suis arrivée dans mon entreprise actuelle chez qui je suis depuis maintenant plus de 3 ans et demi.
J'aimerais qu'on revienne sur 2 points là que tu as évoqués. Donc, le premier point, c'est le fait d'être retourné finalement dans une entreprise, parce que tu étais chez Sanofi. Sanofi, c'est une très grande entreprise. Ensuite, tu vas chez une entreprise de moyenne envergure qui est Laboratoire de la Mer, mais où tu dis « j'ai énormément appris et grandi ». Donc, je cite tes mots. Hein. Et en fait, ça, c'est très fort ce que tu dis, dans la mesure où c'est vraiment important de savoir que c'est souvent dans des petites entreprises ou des entreprises moyennes qu'on apprend énormément, qu'on se forme, parce que très souvent, de façon générale, on aimerait tous être dans des très très grosses entreprises, mais c'est super d'être dans une grande entreprise. Mais aussi, il faut savoir que quand on démarre, des fois, faut accepter comme ça de, je te cite une fois de plus, se mettre en danger. Donc retourner si possible ou accepter des opportunités dans des entreprises de moyenne envergure où finalement vous allez apprendre des tas de choses et aussi on va vous faire confiance. Comme tu disais, tu as énormément voyagé, donc c'est super enrichissant. Le deuxième point, c'est tu parles de mobilité. On nous rabâche, hein, mobilité, il faut être mobile, c'est important de l'être. Concrètement, quels sont les moyens que tu as mis en place en fait, pour te permettre d'être mobile? Et quels sont les avantages que tu en as tirés?
Les moyens que j'ai mis en place, bien évidemment, c'était dans le cadre de ma recherche d'emploi. Je n'ai bougé que au moment où j'ai trouvé finalement un poste qui m'intéressait et sur lequel j'étais vraiment motivée. Donc, je me suis déplacée pour les entretiens. Je suis allée à Saint-Malo un jour pour mon entretien. J'ai un petit peu pu déjà voir le cadre dans lequel j'aurais pu évoluer si jamais voilà j'étais prise. Et puis une fois que ça s'est fait, que ça s'est concrétisé, j'ai recherché du coup un logement via les sites que l'on connaît tous pour chercher des logements. Et ensuite, j'ai déménagé, hein, tout simplement. Voilà un petit peu comment j'ai fait. Et puis, qu'est-ce que ça m'a apporté? Encore une fois, ça m'a apporté un enrichissement personnel énorme. J'ai grandi, j'ai voyagé, j'ai appris énormément dans mon poste. Et vraiment, ça a été une expérience au top.
Je veux bien te croire. Et en plus, je dirais, tu as parlé de chercher des logements via les sites. Je dirais également, parce que souvent la question revient, oui, mais c'est pas facile. Bah, je dirais, ok, ne pas hésiter aussi à faire jouer son réseau. Chercher mais qui est-ce que je peux connaître dans la ville où j'ai envie d'aller, où j'ai une opportunité, est-ce que j'ai pas des amis qui peuvent m'héberger un temps, enfin voilà, ne pas vraiment se limiter en se disant oh là là c'est trop loin ou j'aurais pas les moyens, enfin il y a toujours des solutions, vraiment ne pas hésiter à vraiment creuser et ne pas louper une opportunité sous prétexte que finalement ce serait trop compliqué, on n'aurait pas les moyens. On sait que c'est pas évident, hein, c'est pas évident, que l'équation économique rentre aussi en jeu, mais vraiment je suis sûre, je suis même convaincue qu'il y a toujours un moyen d'y arriver. Donc très bien, là je vais te proposer de parler de ton métier actuel. Donc aujourd'hui, tu es chef de produit chez Mayoli Spindler. En quoi ça consiste en fait le métier de chef de produit? Peux-tu nous décrire une de tes journées type?
Alors le métier de chef de produit dans l'industrie pharmaceutique, ça doit assez être proche d'un métier de chef de produit dans d'autres domaines. Sauf que donc dans l'industrie pharmaceutique, on s'occupe de produits de santé, donc ça peut être des médicaments, ça peut être des dispositifs médicaux ou des compléments alimentaires. Et mon métier, finalement, c'est de créer toute la documentation déjà sur mes différents produits, de créer tout le discours que l'on apporte auprès des médecins et auprès des pharmaciens, également auprès des patients et consommateurs. Donc, je vais vraiment travailler sur les outils que vont utiliser nos délégués. Quand on a des délégués médicaux ou des délégués pharmaceutiques, donc je vais vraiment leur apporter toute la matière dont ils ont besoin pour parler de nos produits, en faire la promotion auprès des médecins, auprès des pharmaciens. Et donc une de mes journées type, j'en ai pas vraiment, je te l'avoue, parce que finalement mon métier, c'est surtout des projets. C'est surtout des projets sur du moyen terme. Et donc globalement, j'ai des séminaires trois fois dans l'année que j'ai à préparer. Et donc lors de ces séminaires, je vais donc travailler sur les outils, sur les argumentaires, sur les animations, sur tout ce qui peut permettre de passer au mieux le message que j'ai envie de passer. Et je vais travailler sur les packagings de mes produits, je vais travailler sur l'image de mes produits, sur le positionnement de mes différents produits, etc. Donc c'est un métier assez complet, assez large, qui touche en effet à de la créativité, parce que il faut pouvoir en effet vendre, faire de la promotion de ces produits et surtout faire des choses qui sont jolies, des choses qui donnent envie d'être achetées, qui donnent envie d'être conseillées, qui donnent envie d'être prescrites. Voilà, c'est un métier assez large sur lequel je prends énormément de plaisir à travailler.
Tout à fait, je l'entends bien, hein. Ça a l'air vraiment très très complet et comme tu le disais à juste titre, c'est un métier transversal, hein. C'est un métier qu'on retrouve dans plein de domaines, que ce soit dans la cosmétique, l'automobile, donc oui, c'est effectivement c'est un métier très intéressant. Tu as beaucoup parlé de créativité. C'est une qualité, compétence qui est beaucoup demandée, hein. Enfin, elle n'est pas simplement inhérente au métier de chef de produit. Ça peut être une qualité innée, mais je fais partie des gens qui pensent qu'avec du travail, vraiment, qu'avec beaucoup de travail, on est capable de développer des compétences, même celles qui a priori seraient innées. Pourrais-tu nous dire comment au quotidien tu nourris cette créativité ?
Ma créativité, je dirais que je la nourris en restant ouverte, en fait, tout simplement. On est entouré aujourd'hui de plein de choses. Ça peut être déjà nos différentes interactions avec nos familles, nos amis, etc. Ça peut être la publicité à la télé, ça peut être tous les nouveaux produits, etc., qu'on retrouve dans tous les domaines. Moi, aujourd'hui, je reste assez ouverte sur ce qui se passe finalement autour de moi et que je peux quelque part un petit peu implémenter parfois dans mon métier, dans ce que je peux proposer, etc. et tout. Donc je pense que pour avoir de la créativité, il faut justement ne pas être fermé et pouvoir s'ouvrir sur le monde qu'il y a autour de soi, parce que on peut toujours trouver des idées dans à peu près tout, en fait, même avec mon petit garçon, je trouve des idées parce que il va me faire voir des choses, me faire voir les choses différemment que ce que j'aurais pu penser toute seule.
Oui, donc vraiment rester connecté à son environnement, hein. Enfin, c'est pas des choses qu'on va chercher sur Mars. Hein. C'est vraiment tout ce qui nous entoure et qui nous inspire au quotidien. Tu as parlé également de gestion de projet. As-tu suivi des formations spécifiques ou voilà, c'est quelque chose que tu as appris sur le tas ?
Pour tout ce qui est gestion de projet, j'ai vraiment plutôt appris sur le tard, je dirais. Après, j'ai également eu une formation dans le cadre de mon travail qui est assez courte, mais qui permet d'avoir quand même quelques clés. Mais je pense que la gestion de projet, c'est avant tout quelque part du bon sens. C'est pouvoir travailler avec les personnes qui nous entourent, les personnes qui sont nos collègues et pouvoir avoir une vision d'ensemble, se fixer des timings, se fixer des objectifs et des moyens pour y arriver, et ensuite suivre la mise en place au fur et à mesure du projet. Donc c'est beaucoup, à mon sens, du bon sens, mais bien évidemment il existe des formations pour pouvoir être plus efficace.
Oui, il en existe des tonnes, hein, des formations comme ça sur la gestion de projet. Mais je te rejoins sur le fait que, enfin, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend vraiment sur le tas. Après, effectivement, vous avez des formations qui vous donnent des billes, mais faut pas simplement se reposer sur ces formations-là parce que ça reste très souvent assez théorique. Hein. Enfin, je parle pour celles que je connais, mais le plus dur, c'est vraiment comment tu appliques ça dans ton environnement quotidien. Et pour moi, la seule façon, c'est vraiment sur le tas, comme on a dit, d'apprendre au fur et à mesure. Et puis voilà, pas la peine d'aller dépenser des milliers d'euros dans des supposées formations en gestion de projet miracle. À présent, si tu le veux bien, je souhaiterais aborder avec toi ta vie en dehors du boulot. Parce que je sais que tu es une maman, tu es maman d'un adorable petit garçon. Et je suis très admirative des hommes et des femmes comme toi hein, qui arrivent à gérer la vie privée et la vie familiale. Est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques petits tips? Comment tu t'organises en fait pour concilier ta vie familiale et ta vie pro?
C'est pas évident, ça c'est certain. Après, je pense que le maître mot c'est l'organisation, hein. C'est l'organisation à la maison pour faire en sorte que les choses soient le plus fluides possible, de l'organisation au travail. Et en fait, finalement, moi, je suis en tout cas de ceux qui estiment que quand on est à la maison, on est à la maison. Et quand on est au travail, on est au travail. Donc, il faut vraiment savoir séparer les deux, donner de la place aux deux, c'est important, mais pouvoir vraiment les séparer. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, j'évite de travailler. Bon, bien évidemment, dans cette période de confinement, malheureusement, on a dû énormément télétravailler, mais dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose que j'évite au maximum parce que c'est important de pouvoir donner de la place et du temps à mon fils. Et quand je suis au travail, je suis au travail, c'est limite, je regarde pas mon téléphone, je suis à fond dans ce que je fais pour être le plus performante et aller le plus loin possible dans ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de donner de la place aux deux, mais de vraiment séparer les deux pour être la meilleure dans ma vie professionnelle et la meilleure dans ma vie personnelle.
Je rajouterais juste aussi, voilà, d'être un peu plus supportifs les uns des autres. Hein. Bon, je referme très rapidement cette parenthèse parce que ça pourrait déboucher sur un autre débat. Pour terminer, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter.
Toujours plus de bonheur et pourquoi pas une nouvelle passion dans ma vie pour la suite.
je te souhaite donc de réaliser toutes ces bonnes choses, hein, de continuer à inspirer ta famille, tes amis, comme tu le fais si bien. Donc, pour terminer, je vais reprendre quelques points clés que tu as évoqués, hein, qu'on a discuté ensemble. Tu as parlé de viser haut, d'être ambitieux. C'est très fort comme terme. Très souvent, l'ambition est perçue comme quelque chose de négatif, mais en fait, non. Faut assumer ses ambitions et surtout, faut se donner les moyens de pouvoir assouvir ses ambitions. Tu as parlé également de préparation, hein, que ce soit de la préparation aux entretiens, aux CV, aux différents examens qui t'ont permis d'intégrer, que ce soit la grande école HEC ou même le milieu professionnel. Tu as parlé également de savoir se poser les bonnes questions et de savoir rebondir. Donc ça, c'est un point super important. Tu as parlé de détermination, tu as parlé t'as utilisé des expressions vraiment très fortes, hein, qui m'ont marqué. Ouvrir ses chakras, donc c'est vraiment être à l'écoute de son environnement et aussi à l'écoute de soi. Tu as parlé de se mettre en danger vraiment pour aller toujours un peu plus loin et vraiment pouvoir comme ça réaliser ses objectifs et se donner, comme on dit souvent, les moyens de sa politique. Je vais terminer en fait également en vous invitant à méditer sur cette petite phrase d'Einstein. Ah oui, quel homme, hein, Einstein. Cette citation en fait a été revisitée plusieurs fois. Je vais la dire en anglais, pardonnez mon accent très français, mais voilà. Donc c'est « If you keep doing what you have always done, you are going to get the same results you have always gotten. » Donc je vais le redire. « If you keep doing what you have always done, you are going to get the same results you have always gotten. » En gros, c'est vraiment, si vous voulez avoir des résultats différents, agissez différemment. Donc je vous laisse méditer sur cette phrase. Comme vous le savez, le podcast est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. D'ailleurs, le mois prochain, je vous ferai découvrir un univers totalement différent avec mon nouvel invité. Ça va être très passionnant, d'en rester connecté. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez découvert à travers le parcours de Marthe quelques clés qui pourront vous aider à booster votre recherche d'emploi ou pourquoi pas vous inciter à passer à l'action. Je suis également présente sur Instagram, hein, donc pour toute question sur le compte Avanocolo Podcast. Donc n'hésitez pas à me suivre également là-bas pour être inspirée, motivée quotidiennement. Pour finir, vraiment, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des remarques sur le podcast. Je serai très ravie d'échanger avec vous. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.
À bientôt, Vanessa.